la liberté.
Moi, je m'identifie en tant que...
Je pense que ça revient vraiment à cette question.
Moi, j'ai grandi dans un petit village.
Ben, dans mon enfance à moi.
Ça t'offre un autre regard.
Hey toi, ça t'est déjà arrivé de juste regarder les gens autour de toi, dans la rue, à l'épicerie, au cinéma, d'observer ceux et celles qui t'entourent en te demandant est-ce que tu les connais vraiment? Au-delà d'une apparence, d'un comportement, d'un regard, t'es-tu demandé ce que ressentent ces gens, ce qu'ils vivent? En quoi sont-ils différents? En quoi, moi, suis-je différent? Parce que chacun de nous a plusieurs facettes, ici, on s'interroge sur l'autre. On va toquer à sa porte et donner la voix à des expériences, à des ressentis, à ceux et celles qui ne sont pas toujours compris ou qui n'ont pas toujours l'opportunité de se raconter. Tu sais, parler de cette diversité, de ces diversités, qu'on rencontre tous les jours sans pourtant bien les comprendre. Bienvenue dans Autre Regard, un balado de la liberté. Dans ce nouvel épisode, la journaliste Ophélie Doirot s'interroge sur la diversité culturelle, en particulier sur le carrefour des cultures, l'interculturalisme.
Que se passe-t-il quand on se retrouve à la croisée de différents chemins culturels? On grandit dans une certaine famille, un certain environnement, une certaine culture. Et puis, on s'implante dans une autre. Ça arrive notamment quand on déménage dans un autre pays. Par exemple, en 2019, le Canada a admis plus de 340 000 résidents permanents, de partout dans le monde. Alors, comment fait-on pour s'adapter à la culture du pays d'accueil? On se demande, que se passe-t-il lorsque les différentes cultures se rencontrent?
En gros, je suis arrivé au Manitoba parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai rencontré celle qui aujourd'hui est ma femme.
On a rencontré Willis. Il vit au Manitoba depuis plus de 11 ans maintenant. Et comme il le raconte, c'est l'amour qui l'a poussé à quitter son Bénin natal pour venir s'installer définitivement au Canada.
Alors, 6 mois ont suffi pour commencer une relation qui, finalement, a été une relation de longue distance pour quelques autres années. Et enfin, en 2009, on s'était mariés, puis on s'était décidé le choix d'aller vivre au Canada, donc de commencer notre vie au Canada. Et voilà comment, en septembre 2010, je suis arrivé pour la première fois au Canada, au Manitoba, comme résident permanent. Deux choses m'ont vraiment marqué. Une première chose qui était très positive, c'était de voir... quand même une francophonie qui existait, des personnes qui se battaient pour leur langue, de voir des personnes tellement fières de leur identité, de leur culture, de leur héritage. Je trouvais ça fascinant, sincèrement. Je viens du Bénin, je viens d'Afrique, j'ai une fierté culturelle, mais je pense que de voir autant de fierté chez... les franco-manitobains, comme on le dit, m'a poussé, moi également, à me rapprocher encore un peu plus de ma culture, à chercher à apprendre un peu plus. L'autre chose qui, quand même, peut-être aurait été mon plus grand choc comme immigrant et comme personne voulant s'intégrer, c'est au niveau du relationnel. Je me rappellerai toujours un de mes amis, une bonne connaissance à moi qui un jour m'a dit « Écoute, Willis, toi t'es venu à un âge pas vraiment le bon, parce que quand tu passes ta trentaine et que t'arrives ici, les gens ont fini de se faire des amis, ils veulent plus forcément créer de nouveaux cercles, ils ont fait leurs amis à l'école et au collège, l'université maintenant, et puis donc tu vas avoir du mal à te faire ton réseau, à te faire un réseau d'amis. » Et je pense qu'il avait complètement raison. J'ai beaucoup patiné, je dirais, les premiers mois, les premières années, pour avoir un cercle d'amis, de personnes venant d'ici, de personnes... pas parce que les gens ne voulaient pas, selon moi... m'accepter, mais parce que c'était pas leur priorité de se faire de nouveaux amis. Ils avaient leur cercle, puis ils se sentaient bien dans leur cercle. Comme immigrant, on ne pense pas à ces détails. Moi, j'aurais jamais pensé à cela avant d'arriver ici. De mon contexte culturel, si je sors dans la rue, je me fais des amis, je rencontre une personne, je l'invite à aller prendre une bière, on s'assoit, on prend la bière, et puis si on doit se revoir le lendemain, on va se revoir le lendemain. Je pense que la notion d'amitié est différente partout et elle est différente d'une personne à une autre également. Mais ça reste que culturellement et selon certains contextes sociétals, on est plus peut-être porté à créer des amitiés que dans d'autres contextes. Alors, je me suis effectivement rendu compte de cela à ce moment-là, mais je me suis aussi rendu compte du fait que comme nouvel arrivant, comme personne nouvelle dans la communauté, la notion de l'accueil est différente. Dans mon contexte, par exemple, de vie, une nouvelle personne qui vient dans un environnement, dans un quartier, tout le monde l'identifie rapidement comme le nouveau venu et tout le monde va vers lui. Mais j'ai compris qu'en réalité, ici, on s'attend et les gens ne voulant pas vous brusquer s'attendent à ce que nous allions aussi vers eux. Alors, il faut faire ce pas vers les personnes qui sont de la communauté d'accueil. Un élément que je ne comprenais pas à mes premiers jours ici non plus.
C'est intéressant comme une valeur telle que l'amitié peut être perçue différemment d'une culture à l'autre. Comment on approche l'autre? Comment on devient ami? On a aussi posé la question à Alberto. Il vient du centre du Mexique et il est arrivé au Manitoba, d'abord comme étudiant international, puis comme immigrant, il y a maintenant 17 ans.
Les amitiés ici sont tellement profondes. Une fois qu'on a un ami ici au Canada, c'est presque comme avoir un ami pour la vie. Ces personnes-là, ces gens-là, sont tellement disponibles à nous aider, à nous écouter, à nous bien... aider à comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent ici. Et ils vont être là, toujours, toujours. Mais oui, c'est un peu difficile de nous arriver à ces points-là, au début. Ce n'est pas assez facile de gagner ces amis-là dans la première occasion. Ce n'est pas une action rapide, disons, de faire des bons amis. Une fois qu'on a l'occasion de trouver certaines personnes comme des bons amis ici au Canada, je dirais que le niveau de loyauté, c'est le mot, c'est tellement fort. La différence, c'est que les protocoles pour danser l'amitié, c'est un peu différent, pour le dire d'une façon, parce que disons qu'on a une réunion, une fête, et pour la plupart, toutes les personnes à la fête sont latinos. Je dirais que ça va prendre un bon demi-heure pour dire bonjour à tous. Parce qu'il faut toucher chaque personne, un bec ici, un bec là, et puis bonjour, bonjour, et puis on passe à la prochaine personne. Et puis s'il y a 10 personnes à la fiesta ou dans la fête, ça prend une trentaine de minutes pour dire bonjour. Et puis une fois qu'on part, ça prend une autre trentaine pour toucher à chaque personne de bec, et puis dire bonjour encore une fois, n'est-ce pas? Alors c'est un processus assez long, mais c'est ça qu'on fait. Et par contre ici, si tu es dans une fiesta ou une fête canadienne, avec high, bye, rapide, c'est suffisant. Et puis des fois, on dit rien. On part, on arrive, on part et ce n'est pas nécessaire de dire quelque chose. C'était aussi fascinant d'apprendre la différente façon dans laquelle les Canadiens ont leur interaction. Je veux dire ça parce que le concept de l'espace personnel est tellement différent, n'est-ce pas? Ici au Canada, l'espace personnel, c'est important. Il faut avoir certaines distances entre les personnes. Et puis, on n'a pas l'habitude tellement de toucher, d'embrasser, de faire des petites caresses, tout ça. Et puis, à mon pays, et puis ma culture, la culture latina, c'est tellement important d'avoir ce niveau de contact personnel. Alors, c'est un choc culturel que ça m'a pris quelques ans pour bien comprendre qu'ici, il faut respecter ça, que c'est différent. C'est pas positif, c'est pas négatif, c'est tellement différent. Et il faut s'ajuster, il faut apprendre.
Willis et Alberto, tout comme d'autres immigrants, ont alors dû apprendre et s'adapter à ces nouvelles notions, celles de leur pays d'accueil, pour tendre à une meilleure intégration. On parle d'amitié ou de proximité. Autant d'éléments qui rentrent en compte lorsqu'on parle de la culture d'un individu. Mais finalement, la culture, c'est quoi ? Docteur Barthélémy Bolivar, titulaire d'un doctorat en philosophie et qui s'intéresse particulièrement à la question du multiculturalisme en éducation, tente de l'expliquer.
Pour moi, c'est difficile de proposer une définition même de la culture parce que, premièrement, c'est un terme qui est trop englobant. Il y a trop de choses là-dedans. Et deuxièmement, c'est tellement essentiel aussi que c'est difficile de la définir. C'est que la culture, c'est vraiment ce qui nous définit, mais parfois pas même comme individu, mais comme individu appartenant à un groupe, comme individu faisant partie d'un agrégat. Et cette culture-là, de manière concrète, ce que c'est ça entre dans tout, parce que bon, si on veut aller avec une définition livresse ou je dirais même universitaire, ce serait exactement un ensemble. Et là-dedans, on trouverait, on prendrait que ce soit la religion, que ce soit l'architecture, que ce soit la danse, que ce soit la musique, que ce soit la littérature. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est tellement englobant. Partout dans le monde, on mange parce que physiologiquement, on doit manger pour vivre, mais on ne mange pas de la même façon. Donc, c'est là que la culture intervient. La culture intervient dans nos rapports par rapport aux choses, nos rapports par rapport aux idées. Nos rapports par rapport aux idéologies et comment dans un groupe on va s'associer à un ensemble. La culture, c'est ce qu'on ne peut pas vraiment définir, mais qu'on vit chaque jour et ce qui permet parfois de nous identifier. Et cela au-delà de ce qu'on porte, au-delà de ce que les gens voient, au-delà du tangible. D'ailleurs, dans tous les modèles culturels, on parlait du tangible à 20%, des choses que l'on voit, la musique qu'on écoute. Mais il y a un 80% qu'on dit ordinairement, c'est vraiment la masse de l'iceberg, c'est vraiment les racines de l'arbre. Et si on prend, c'est vraiment les autres couches de l'oignon, si on prend ce modèle-là. Et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'il y a la vraie culture. Et c'est là que profondément, qui définissent les gens, c'est tout ce positionnement. Et parfois, c'est des points de vue sur lesquels les gens ne veulent pas négocier aussi. C'est tellement ancré et c'est tellement profond que les gens ne veulent même pas négocier et c'est ce genre de choses.
La ponctualité, c'est la grande différence, je dirais, parce que ici au Canada, la ponctualité, c'est forte, est forte, n'est-ce pas? Quand il faut arriver, il faut finir, tout ça, il faut garder un bon contrôle du temps. Et puis, pour être honnête, à l'Amérique latine, ce n'est pas nécessairement le cas. Le temps, c'est une suggestion. Disons que si quelqu'un dit on va commencer à 16 heures, mais on peut commencer à 16 heures, 16 heures et 30, 16 heures 45, on ne sait pas, on verra. Et puis, moi, j'ai commencé comme ça et j'ai eu mes leçons. J'ai pris l'autobus, par exemple. Je me souviens que le premier jour que je suis arrivé ici, j'utilisais l'autobus, public transit, le transport public. J'ai eu la carte avec l'horaire. Et puis, il y avait l'horaire qui était tellement précis, comme l'autobus arrivera à 10h35. Et puis, moi, je me suis dit, vraiment, j'ai appris rapidement que le système de transportation publique fonctionne à l'heure indiquée. Alors, ce sont des petites choses comme ça que des choses ont un peu changé. Et puis, maintenant, je dirais que je suis tellement ponctuel.
Pourrait-on alors définir la culture par des petites choses, par des aspects concrets du quotidien? En fait, avec quoi peut-on comparer différentes cultures entre elles?
Il y a l'anthropologue Hall qui a parlé, par exemple, de la façon dont les cultures traitent la distance. Okay? Vous êtes dans une culture plus ou moins mexicaine, hispanophone. Vous allez voir que les gens, latines, je dirais, bien sûr, culture latine un peu, que les gens se tapent, hein, se touchent. Et puis, c'est très normal. Et vous arrivez dans un milieu caucasien, Amérique du Nord, mais c'est moins bien vu. Vous gardez vos mains à vous. D'accord? Mais dans d'autres cultures, c'est normal, même la distance aussi. Et Hall va parler de ce qu'on appelle distance publique, distance intime. Et en regardant des gens de loin, on veut comprendre exactement quel genre de relation, la façon dont les gens se parlent, même si vous n'entendez rien. La distance, les gestes, pour vous dire beaucoup. Alors là, il y a le traitement de la distance et même, par exemple, dans les entreprises. Hein, vous allez dans certaines entreprises, par exemple en Asie, et quand on parle du management culturel, vous allez voir comment les bureaux sont disposés. Vous allez voir ce niveau de, peut-être, dans d'autres milieux, vous allez voir la hiérarchie. Dans d'autres milieux, vous allez voir la collégialité, hein, qui entre. Donc, n'oubliez pas aussi que les entreprises ne sont pas des vases clos non plus. Hein, ça reflète la culture des gens qui y vivent. Alors, le temps aussi. Par exemple, il y a des amis qui ont dit ben, c'est pas tel temps là, de tel pays ou bien de tel continent. Je ne veux pas des clichés. Oh, ce n'est pas le temps africain, mais c'est le temps canadien. Donc, c'est-à-dire, comment on voit le temps? Parce que, comme par exemple, et ici, une remarque, c'est que déjà 5 minutes avant, c'est comme un retard. Dans certaines cultures, 15 minutes, on peut attendre et on n'est pas pressé. Vous comprenez? C'est comment on comprend le temps. Donc, il y a des cultures qui sont orientées vers la productivité. Hein? C'est vite, vite, vite. Il y a des cultures qui sont orientées, par exemple, vers le passé, comme certaines cultures asiatiques, par exemple. Hein? C'est très ancré dans l'histoire, dans le passé. On a tous les mêmes besoins, mais à travers le globe, sur la planète, et même à l'intérieur des cultures, il y a des sous-cultures aussi. Donc, on ne répond pas à ces besoins de la même façon. On ne va pas éduquer un enfant de la même façon. Et ce qui est intéressant aussi qu'il faut comprendre, il n'y a pas de bonne et de mauvaise culture, il y a tout simplement des cultures.
Ce qui est drôle, c'est que les Japonais, ils acceptent que les étrangers, ils ne comprennent pas leur culture parfaitement, spécialement au début. Alors, ils sont bons à ignorer ces tabous culturels. Par exemple, ça m'a pris probablement 4 ans pour savoir que c'est impoli de boire même de l'eau en avant des clients, des petites choses comme ça, mais comme il n'y a personne qui te le dit, il faut que tu le découvres. S'il y a quelqu'un qui te le dit, t'es chanceux parce que là, c'est de plus faire. Des petits exemples comme ça, comme bouger des objets avec tes pieds, c'est un tabou. Alors, t'apprends ça au fur et à mesure que tu vis dans le pays.
Lui, c'est Nicolas, un francophone de Winnipeg, comme il le dit. C'est juste après ses études à l'Université du Manitoba que Nicolas est parti pour le Japon. Il y est resté 5 ans et il a fait l'expérience de ces petites choses du quotidien.
Ce qui est drôle, c'est quand j'ai déménagé de Iwate à Aomori, je pensais que ça serait facile à juste changer d'emploi parce que je pensais toujours comme j'étais ici, tu sais, oh, je déménage, je vais me trouver une job, pas de problème. Mais je suis arrivé là, puis au fur et à mesure que tu vas au nord, il y a moins d'étrangers. Alors, il y a aussi moins d'emplois pour les étrangers. Alors, à travers de ma copine, j'ai été introduit à des pêcheurs. Et j'ai fait de la pêche pendant environ 8 mois. Puis j'ai vraiment appris le dialecte du nord quand j'étais là, parce qu'il fallait le comprendre pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passait sur le bateau. Alors, c'est pas mal différent. Puis les coutumes, je veux dire, oui, c'est un peu plus différent. Au fur et à mesure que tu vas au nord, disons que dit simplement, c'est un peu moins formel. C'est comme tout est plus formalisé quand tu arrives à les centres très urbanisés comme Tokyo. Mais alors, ça sent un peu plus chaleureux quand tu es au nord, disons. La langue est différente, puis la nourriture est très différente. Ça, c'est une chose qui me manque beaucoup du Japon, c'est que d'une préfecture à l'autre, mais d'une ville à l'autre, la nourriture est différente. C'est plus une équipe, disons, au Japon. Tout le monde va quitter en même temps le travail. À place de, tu sais, comme le monde va sortir un à la fois. Si tu travailles jusqu'à la fin de la journée, tu vas pas partir en avance de tes collègues. Tout le monde va sortir ensemble. Puis il y a un genre de une façon de partir. Il y a toujours le même mot que tu dis quand tu quittes. Alors il y a toutes sortes de coutumes. C'est très formel, disons, comment ils font les choses au Japon. Mon éthique de travail a été impactée. Je suis plus collaboratif avec le monde avec qui je travaille, puis je pense que j'ai appris ça vraiment au Japon. Alors, je pense que c'est un gros impact.
La sphère du travail semblerait donc être un tout autre monde lorsqu'on se confronte à une autre culture. Willis et Alberto en ont également fait l'expérience. Par exemple, en tant que gestionnaire de projet à une époque, Alberto pensait bien faire en restant très tard à l'ouvrage.
Et puis après 2 semaines, mon chef m'a appelé au bureau et me dit « Alberto, on voit que tu restes assez tard au bureau et parce que tu es le gestionnaire des projets, il y a toute l'équipe, dans ton équipe, qu'il faut rester jusqu'à ce temps-là. Alors, vous restez tellement tard au bureau et puis il faut que tu saches que ici la politique, c'est de sortir le travail à 5 heures. » Et puis moi, j'étais choqué parce que je me suis dit « Quoi? Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce qu'on peut renégocier les dates limites? Est-ce qu'on a la flexibilité? Est-ce que c'est tellement important de sortir à 5 heures de soir de travail? » Et puis pour moi, c'était une expérience tellement grande parce que, et puis une surprise.
Je ne dirais pas que ce serait seulement à cause d'incompréhensions culturelles. Je dirais que les incompréhensions arrivent parce que entre des personnes qui vivent ensemble dans une société, il y a des incompréhensions. Certes, il y a certaines incompréhensions qui sont dues à des facteurs culturels, qui sont dues à des façons de faire différentes. Et là, c'est là que je trouve que la communication a un rôle important. Il faut s'en parler. Il faut s'écouter. Il faut que chacun puisse mettre sur la table sa compréhension de la situation. Donc, ce sont des choses qui sont parfois arrivées, mais ça n'a jamais été, selon moi, de très gros défis. Donc, ma curiosité me permettait de comprendre, d'apprendre des personnes qui m'entouraient. Et mes collègues de travail aussi, certains étaient d'ici, d'autres étaient ici depuis plus longtemps que moi. Alors, ça a été vraiment une très belle expérience pour moi. Je ne regrette absolument pas mon intégration par le milieu du travail. Et je pense que c'est l'emploi, ça reste quand même un élément important pour aider une personne qui vient d'ailleurs à s'intégrer, à apprendre par rapport à la communauté. Et ça demande de la patience des collègues, des formateurs. Tout est nouveau pour quelqu'un qui vient d'arriver. Tout est à apprendre, même si on a le diplôme, même si on a la capacité. Beaucoup de choses sont à apprendre, réapprendre. Et dans ce milieu, de mon expérience professionnelle, j'ai eu vraiment tout ce dont j'avais besoin pour m'intégrer professionnellement. C'est crucial d'avoir une ouverture d'esprit. C'est crucial de vouloir se rapprocher des gens, de chercher à apprendre. On ne vient pas voir le mal partout. On vient pas pour critiquer. Les choses se faisaient d'une certaine façon et il y a probablement une raison pour laquelle ça se faisait comme ça et ça se fait comme ça. Tout n'est pas rose, tout n'est pas comme je le vois, mais je veux d'abord comprendre pourquoi ça se fait comme ça, pourquoi ça fonctionne comme ça. Et parfois, j'aurai tort et souvent, j'aurai tort quand j'arrive à mieux comprendre. Donc, cette ouverture d'esprit de comprendre l'histoire des personnes, la raison d'être des choses, elle est vraiment, vraiment importante. Il faut pas qu'on vienne et qu'on reste figé sur ce qu'on connaissait ou ce qu'on croyait connaître et ce qu'on prenait pour parole d'évangile. C'est pas le cas. Il faut sortir un peu de sa boîte, aller au-delà, rencontrer les gens, poser des questions, chercher à comprendre.
Chercher à se comprendre. Il semblerait alors que l'envie du vivre ensemble et beaucoup de curiosité soient d'essentiels ingrédients à l'intégration dans une nouvelle culture. Une valeur que partage Alberto.
La première expérience internationale que j'ai eue, c'était quand j'avais 10 ans. Mes parents au Mexique, nous sommes à trois boys, trois hommes dans ma maison, moi et mes deux frères. Puis mes parents nous ont donné à chacun une expérience internationale. Et puis pour moi, c'était quand j'avais 10 ans, j'ai fait le sixième année à Chicago, avec de la famille à Chicago. Alors, la sixième année, moi, je l'ai fait là. Et c'était la première fois que, comme 10 ans, je me suis sorti de mon contexte mexicain et puis planté dans un contexte américain à Chicago. Et je dirais que c'était cette expérience-là qui m'a fait réaliser qu'il y a tout un monde différent à celle que je connaissais à ce point-là. Et puis, tel qu'enfant, à 10 ans, on n'a pas beaucoup de préconceptions construites dans la tête. Et puis, comme petit enfant à 10 ans, c'est naturel qu'on est curieux et qu'on commence à poser des questions. La curiosité, c'est tellement important parce que je dirais qu'au début, tel qu'immigrant, c'est tellement normal à faire des comparaisons. Ton pays versus ou contre le Canada, n'est-ce pas? Comparer la façon de vivre, les costumes, la nourriture, le climat. C'est naturel, c'est normal. Mais il faut c'est vraiment important de travailler contre ces réactions et puis vraiment être ouvert à garder une curiosité ouverte pour prendre tous les concepts que tu as pris dans ton pays, le mettre à côté et puis être ouvert à vraiment apprendre, explorer les choses qui existent ici. La société, la culture, comment est-ce que ça fonctionne, les concepts basiques les concepts qui sont importants dans notre vie, par exemple, respect. C'est quoi respect selon les Canadiens? C'est quoi l'amitié selon les Canadiens? C'est la curiosité de vraiment d'éviter de faire des comparaisons et vraiment raser les yeux, les oreilles ouvertes pour vraiment écouter et voir comment est-ce que les choses fonctionnent ici. Mais une fois que je suis arrivé ici comme tel que migrant, la curiosité est comme à 100%, n'est-ce pas? Parce qu'il faut commencer une vie ici. Il faut replanter, questionner le tout. Toutes les choses que je pensais que je savais sont des choses qui sont importantes dans le contexte mexicain, mais pas nécessairement ici.
La curiosité, d'accord, est l'une des habiletés les plus importantes dans la compétence culturelle. Être curieux, c'est-à-dire pouvoir lire sur les autres, d'accord, les autres cultures, non seulement lire, et un pas qui est plus important, moi, je dirais de regarder les films, parce que si vous regardez les films, non seulement vous c'est pas seulement cognitif, mais vous entrez dans tout ce qu'on appelle le non-verbal, dans tout ce qui ne se dit pas. Et vous comprenez que dans la communication, ce qui ne se dit pas porte à 70% du sens des choses. Les silences, hein, tout. Et donc, dans les films, et ce qui est assez important, si vous avez encore, si on a vraiment l'occasion, le privilège, c'est de vivre dans ces cultures-là. Hein? C'est de regarder, voir comment les gens font le deuil, d'aller dans des cérémonies, soit funéraires, soit des mariages, comment les gens célèbrent, hein? Et la joie des accomplissements de choses, etc., de voyager aussi et de s'imbiber dans une culture. On ne peut pas savoir, et même je ne peux pas dire savoir, je veux dire connaître. On ne peut pas connaître une culture du dehors. Il faut aller là-dedans, il faut accepter de s'ouvrir et d'entrer là-dedans pour comprendre. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent plus claires, parce qu'on ne comprend pas une culture avec la tête. On vit une culture. Et c'est pourquoi c'était difficile pour moi au début de la définir, en fait, parce que c'est même pas une question de connaissance du cognitif, c'est du vécu culturel. Quand il y a un clash des cultures, c'est exactement quand les gens se positionnent par rapport à un système de valeurs. Et parfois, les choses qu'on ne voit pas. Et c'est normalement ce qui frappe. Et notre rôle à tous pour ce vivre ensemble, pour cette harmonie, hein, ou bien juste pour ce contrat social. Je ne veux, veux pas ici citer Rousseau, mais juste pour ce contrat social. Et on a besoin quand même de se comprendre et on a besoin parfois de parler de ces valeurs-là. Et il y a des choses dans une culture, si on ne vous le dit pas, vous n'allez pas le savoir. Et parfois, ce à quoi il faut faire attention, c'est que parfois vous voyez un élément, ça peut être n'importe quoi, un petit couteau, un mouchoir, mais c'est le symbolisme qui est important. Ce n'est même pas le mouchoir, ce n'est même pas le petit couteau. C'est normalement la représentation. C'est, je ne vais pas aller parler d'archétype, mais c'est tout ce grand symbolisme qui se transmet de génération en génération et qui fait en sorte que, même si c'est un petit couteau, il faut le respecter. Parce que ce n'est pas juste un couteau pour éplucher une orange, une banane. Ça symbolise quelque chose d'autre. Hein? Peut-être c'est une façon de parler des genres dans cette culture-là. Peut-être c'est une façon de dire que, oh, mais mes ancêtres ont toujours été des nomades et puis ils ont dû se battre contre des animaux pour manger. Donc, je poursuis la tradition en ayant un petit couteau à côté. Donc, il ne faut pas voir ça. Oh, mais c'est des gens violents qui vont tuer, etc. C'est pourquoi je vous dis, aucune culture ne devrait être, ne devrait nous surprendre, même si ça va quand même nous surprendre. Hein. Il peut y avoir des chocs. Mais c'est d'abord, toute culture est humaine.
Depuis des années, j'essaie de voir chaque fois en une personne devant moi ce qui fait qu'on se ressemble et non pas ce qui fait qu'on est différent. Parce qu'il y a tellement de points communs. Qu'est-ce que tu aimes faire comme activité? Qu'est-ce que tu aimes lire? Commençons des discussions par là. C'est quoi ta cuisine? J'adore découvrir la cuisine de partout. Alors, il y a tellement de ressemblances, il y a tellement de belles choses dans ces rencontres qui se font. Et je trouve que nous perdons notre temps dans nos sociétés à voir les différences entre les personnes, les différences qui nous divisent en fin de compte. Quel pas on fait pour se départir de nos préjugés? C'est ça qui est important. À partir du moment où j'apprends à te connaître, à connaître la personne devant moi, ça m'aide à me départir de mes préjugés, voir le bon en cette personne, voir toutes les qualités de cette personne et valoriser cette personne à travers ses qualités, à travers sa culture, à travers son histoire.
Ça peut être étonnant. Mais ces frustrations culturelles ne sont pas systématiquement de mauvaises choses. Barthélemy Bolivar indique qu'elles peuvent même être nécessaires dès lors qu'une personne cherche à comprendre l'autre.
S'il y a un désir de vivre ensemble, on va pouvoir se comprendre. Donc, il n'y a aucune culture qui ne soit pas humaine. Donc, autant que ça peut nous paraître étrange, ou très éloigné, très distant de ce qu'on vit, de ce qu'on comprend de la vie, de ce qu'on comprend de la façon dont on devrait se positionner, autant que c'est loin, autant aussi que c'est surtout une culture est profondément humaine. Donc, autrement dit, il n'y a aucune culture qui devrait nous surprendre. C'est ou bien il y a une compréhension culturelle, ou bien il y a un choc culturel. Et si on ne vit pas bien ces chocs-là, ça peut normalement déboucher sur ce qu'on appelle des tensions. Il peut y avoir des tensions culturelles, il peut y avoir des affrontements, d'accord? Parce que tout simplement, on n'a pas pris. Alors, l'essentiel, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une disposition, une prédisposition de ceux qui veulent vivre ensemble et de manière de culture différente. Donc, il faut qu'il y ait une certaine négociation de la part des gens. Et dans ces négociations-là, c'est dire, OK, ben, voici ce qu'on peut toujours avoir, voici ce qu'on peut relâcher, voici ce qu'on va faire à 80%. Voici ce que carrément, il faut mettre un 5% ou un 0% là-dessus parce que c'est trop loin de ce qu'on veut vivre parce que dans les cultures aussi, il faut toujours chercher ce qu'on appelle, il y a quand même des valeurs communes. Hein, et des valeurs de solidarité. Dans aucune culture, on va vous dire, mais la solidarité, c'est méchant. Même s'il y a des cultures qui sont plus individualistes que d'autres. Même s'il y a des cultures qui sont plus collectives que d'autres, d'accord? Mais jamais les gens vont dire, mais si c'est bien à la communauté, ça va faire mal à l'individu. Donc, il y a quand même un certain positionnement. Mais pour revenir à ça, c'est que les cultures, quand les cultures se trouvent dans un même espace-temps, dans un même espace-temps, ces cultures tendent, je dirais, à s'intégrer. Et au-delà du, au-delà de la juxtaposition, il faut penser vraiment à des interdépendances culturelles où les cultures se côtoient et arrivent à un certain moment à créer une autre culture. C'est ça qui, c'est vraiment ce qui est assez important. Quand les cultures commencent à se croiser pendant un certain temps, à un moment de la durée, vous avez une culture émergente.
Le Canada est le seul pays au monde à avoir adopté, en 1988, une loi sur le multiculturalisme. Ce qui signifie en réalité que le gouvernement fédéral est légalement tenu de s'engager envers la promotion et le maintien d'une société diverse et multiculturelle. Les immigrants représentaient dans le recensement de 2016 21,9% de la population canadienne, soit un Canadien sur cinq est issu de l'immigration.
Il y a quelques deux décennies, là, trois décennies à peu près, on parle du multiculturalisme. On a même une charte multiculturelle au Canada, etc. Je pense que c'était un premier pas. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on voit que les cultures sont plus dynamiques que ça. Et dans cette dynamique-là, quand les cultures se côtoient, non seulement les cultures se côtoient, mais il n'y a pas de parallélisme, en fait. C'est que les cultures vont s'imbriquer. Et dans cette imbrication-là, ils vont avoir des échanges. Les échanges vont devenir des interdépendances et carrément, il va y avoir des chevauchements. Et dans ces chevauchements-là, d'autres cultures vont émerger. Alors, c'est bien de parler de l'interculturel parce qu'à ce moment-là, on comprend qu'il y a une dynamique culturelle. On ne comprend pas que les choses vont aller dans un seul sens. On comprend qu'il y a des échanges. Bien sûr, il faut être conscient de ces échanges-là pour les encadrer. Donc, quand on parle de l'inclusion de l'interculturalisme, c'est d'aller aussi au niveau des structures, au niveau des systèmes, pour créer des pistes, pour créer de l'espace pour que les gens puissent se retrouver et vivre non seulement leur culture, mais pour pouvoir aussi partager ce qu'ils apportent dans cette culture et voir émerger d'autres choses. Autrement, ça va être de l'aliénation culturelle. Donc, les gens doivent toujours faire comme eux, comme la culture haute. Aujourd'hui, on est confronté à des problèmes majeurs, que ce soit en éducation, que ce soit en environnement, que ce soit dans les rapports sociaux. Et ces problèmes sont des problèmes de grande envergure. Et ce qu'on nous apprend, comment entrer dans la complexité, c'est la diversité. OK? Pour régler des problèmes complexes, vous avez besoin de diversité autour de la table. Si ce sont des gens qui ont lu les mêmes livres, qui ont eu les mêmes expériences, vos solutions vont manquer quelque chose. Or, les problèmes actuellement qui sont devant nous, sont au Canada et partout, c'est des problèmes globaux et vraiment complexes. Et quand vous avez des problèmes super complexes de cet acabit-là, c'est important d'avoir une diversité à tous les niveaux.
Je dirais ma culture s'est enrichie. Elle s'est enrichie il y a plus d'une dizaine d'années quand j'étais arrivé ici. J'étais un fier béninois, fier de ma culture. Aujourd'hui, j'en suis encore fier et très fier de ma culture béninoise et africaine. Je me suis enrichi de la culture canadienne. J'ai pris toutes les belles choses que je vois, toutes les belles valeurs, et j'ai essayé de me débarrasser justement de quelques préjugés pour laisser place aux belles choses, aux belles façons de faire canadiennes. Alors ma culture s'est enrichie, je ne me débarrasse, ça ne fait pas que je me débarrasse de qui j'étais avant ou qui... Je suis toujours cette personne parce que je pense que dans cette culture dans laquelle je suis né, il y a également de très grandes et belles valeurs qui font de moi qui je suis aujourd'hui. J'ai été enraciné dans cette culture-là et depuis que je suis au Canada, il y a de nouvelles branches à cet arbre que je suis devenu.
On se demande alors, est-ce que l'interculturalisme serait un pas vers une meilleure compréhension de l'autre? Vers un meilleur vivre ensemble?
Définitivement, définitivement. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une ouverture des deux côtés. Et il y a aussi une disposition d'apprendre l'un de l'autre. C'est surtout, on va devenir ensemble. On va devenir ensemble. Parce qu'avant tout, on est humain. On a les mêmes besoins. Comme j'ai dit au début, là, hein, pour comprendre, pour bien comprendre ça, c'est qu'on a les mêmes besoins. OK? Comme être humain. OK? Partout, les gens aimeraient se faire aimer. OK? Partout, c'est ça. OK? Personne. Partout, les gens aiment se faire quand même apprécier. Les gens aiment être valorisés. Mais ça ne se fait pas de la même façon. Donc, fondamentalement, on n'est pas si différents que ça, l'un de l'autre.
Cet interculturalisme, les enfants d'Alberto, Rémi et Vincent, en sont le fruit. Alberto leur parle en espagnol et leur mère, franco-canadienne, en français. Hors micro, Alberto nous a dit que ses enfants étaient 100% mexicains et 100% canadiens. Pas 50-50, ils sont 100% de chaque culture.
Au début, je pense que j'essaie de partager l'importance de la curiosité dans leur vie, de toujours garder les yeux ouverts pour savoir comment est-ce que les choses fonctionnent. Et de garder une mentalité flexible parce que même si on a déjà quelques idées à préparer par rapport à c'est quoi la culture mexicaine, la culture canadienne, il faut toujours être ouvert. Alors, je dirais que la culture de mes enfants, c'est franco-manitobain mexicaine. Et puis, on essaye de garder ces mélanges, ces cultures assez clairs pour les boys, pour les enfants. Moi, je suis le Mexicain, je suis le père. Alors, mon travail, c'est de m'assurer qu'ils comprennent c'est quoi la culture mexicaine et pourquoi il faut la garder vivante ici à Winnipeg. Et l'espagnol est partie de ça, n'est-ce pas? Comme c'est important que mes enfants parlent espagnol, parce que ce n'est pas seulement le fait que je veux qu'ils parlent espagnol, mais aussi parce que c'est la langue à travers laquelle ils vont se connecter avec la famille au Mexique. Un cauchemar pour moi sera si on va au Mexique et puis mes enfants me disent « Papa, je ne comprends rien. Je peux pas me communiquer avec ma grand-maman, abuela, ou mes cousins, ou mes oncles, parce que je ne comprends rien. » Ça, c'est un cauchemar pour moi. Alors, pour moi, c'est tellement important que la langue est là pour les saisir, se connecter avec la famille, mes amis et le pays une fois que nous sommes là.
Garder sa culture vivante, cette immense partie de soi qui fait notre identité, ça passe donc par les générations futures et par la transmission culturelle. Mais ça, on vous en parlera dans notre prochain épisode d'Autres Regards.
Merci à Wilgis, Alberto, Nicolas et au docteur Barthélémy Bolivar d'avoir participé à notre balado et de nous avoir parlé de l'interculturalisme dans cet épisode. Si vous l'avez aimé, si vous avez des questions, des commentaires, dites-le nous sur nos réseaux sociaux et allez nous mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute favorites. Autre regard est un balado de la liberté. Cet épisode sur la diversité culturelle a été écrit par Ophélie Doirot en collaboration avec moi-même, Morgane Lemay. Mehdi Béredade était à l'enregistrement, Vincent Blé est à la conception sonore et au montage, Tanguy Martin et Abdelhamid Souissi à la conception visuelle et Sophie Gollin à la direction. Ce projet audio a été rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine Canadien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Autres Regards.